rencontre sur Radio Orient.
Vous êtes bien sûr Radio Orient, rencontre avec le grand imam de Bordeaux, Tarek Oubrou, après que le chef de l'État français a reçu ce mercredi les autorités religieuses. Tarek Oubrou réagit notamment à la création du Forum de l'Islam de France. Entretien avec Tarek Oubrou, grand imam de Bordeaux.
Ben écoutez, je formule toujours la même remarque, c'est que dans ce genre d'initiative, même si l'intention est louable, et pragmatique, cette initiative manque d'une réflexion préalable, une réflexion théorique sur ce qu'on pourrait représenter comme une institution religieuse représentative de l'islam dans un contexte laïque. Il faudrait se pencher sur une réflexion profonde par des gens qui travaillent, qui ont produit sur cette question-là pour pouvoir délimiter les contours de ce qu'on appelle le culte musulman. Est-ce qu'il s'agit de représenter les musulmans ou bien le culte ou la pratique du culte musulman? Et qu'est-ce que c'est que le culte musulman? Je pense que ce sont des préalables importants. Également, la question des fonctions religieuses, l'imam, le prédicateur, l'aumônier militaire, etc., etc., et sur quelle base on va nommer ces fonctions religieuses. Je pense que on est plus dans la technique, dans la gestion administrative et technique, ce qu'on pourrait bien sûr admettre. L'État a besoin d'un interlocuteur, même si c'est pas la religion en tant que telle qui cherche une représentativité quelconque. L'islam n'a pas besoin d'une institution religieuse représentative, mais c'est une demande de l'État. Et donc l'État a besoin politiquement, administrativement, pour gérer le culte musulman, d'avoir des interlocuteurs. Sauf que malheureusement, face à l'État, il n'y a pas une maturité intellectuelle théologique des interlocuteurs. C'est pourquoi on consulte souvent des gens qui n'ont pas de rapport ni avec la théologie, ni le droit canonique, ni même la pratique des fonctions religieuses. Donc on est dans le tâtonnement, encore une fois, c'est bien, il faut toujours essayer. C'est déjà pas mal de reconnaître que le CFCM, tel qu'il est aujourd'hui, est une institution qui n'est pas adaptée de par sa constitution, et de penser notre modèle de représentativité. Donc la démarche au niveau de son intention est tout à fait légitime. Cependant, pour moi, j'insiste sur le côté fondamental, théorique, qu'est-ce qu'on entend par le culte. L'islam n'est pas qu'un culte. Ce qui pose problème aujourd'hui au niveau des pratiques de l'islam, c'est pas dans les mosquées, c'est plutôt dans l'éthique individuelle, dans l'entreprise, dans la société, dans l'administration, etc. C'est au niveau de l'éthique personnelle des musulmans où se situe le problème. Et ce côté-là ne relève pas du culte musulman. C'est de l'éthique musulmane, individuelle et collective. Donc il faut mener peut-être une réflexion théorique plus profonde sur ce qu'on entend par les contours de la représentativité du culte musulman. La question de la formation des imams demande également une réflexion sur le programme pédagogique. On a besoin d'une doctrine élémentaire, d'une doctrine a priori, justement pour constituer un programme adapté à la formation des cadres religieux musulmans en France.
Donc cette représentativité de l'islam qui serait basée sur les acteurs départementaux et non plus à partir de la tutelle des fédérations de mosquées affiliées à des pays, ce n'est pas une solution adaptée selon vous, même si vous vous réjouissez sans doute de la fin de cette tutelle?
Oui, ce sont des acteurs, mais pas forcément des théologiens théoriciens. Donc, effectivement, les acteurs, ils parlent de ce qu'ils connaissent. Parfois, ils ne maîtrisent pas ni la théologie, ni le droit canonique, ni le droit français, ni les sciences humaines, ni les sciences religieuses, etc. Et donc, ce sont des acteurs. Mais tous les acteurs de l'islam n'ont pas une certaine maturité dans leur vision des fonctions. La typologie de l'imam, qu'est-ce que c'est qu'un imam, qu'est-ce que c'est que le culte, tout ceci, c'est l'affaire des canonistes, des théologiens. Donc on a besoin d'une cellule, je dirais, très, très serrée, où il y a les acteurs théoriciens qui proposent des modèles, plusieurs modèles, pour en choisir qui est le plus praticable possible.
Et cela passe par une entente entre les différents acteurs, c'est aussi un élément important.
Ben, il faut un consensus omnium minimum. Moi, je pense, à mon niveau modeste, j'ai produit plusieurs ouvrages où j'ai proposé des modèles de représentativité. Et donc, maintenant, c'est à l'État de voir comment organiser cela. L'État est gêné parce que dans la mesure où il ne peut pas s'immiscer dans le contenu. C'est ça le problème. Il ne peut pas s'immiscer dans le contenu de la formation, dans le contenu théologique, etc. Ça passe, se limite à la gestion administrative du culte. Mais le reste incombe aux musulmans eux-mêmes. Mais cette démarche qui est entamée aujourd'hui par l'État, c'est une expérience à faire et on verra le fruit par la suite.
Parmi les sujets qui ont été évoqués ce mercredi entre les représentants des différents cultes et le chef de l'État français, une mission sur les actes anti-religieux voit le jour en France. Deux députés sont chargés de cette mission. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en attendez?
Écoutez, on a assez de lois pour combattre ce genre d'actes. Le problème, c'est dans la pratique. C'est pas dans la recherche de nouvelles lois. Je pense que c'est un phénomène plus général, celui de la crispation. On est de plus en plus dans des sociétés tendues, crispées, dans ce phénomène général. Dans les actes antireligieux, nous ne sommes que le symptôme. Il y a un malaise. Et donc le politique, il doit traiter le malaise dans cette profondeur, à travers un discours politique apaisé, parce qu'aujourd'hui, le discours politique, il contribue à cette tension sociétale. Et donc, il faut que les acteurs politiques soient plus responsables. Les médias, il faut qu'ils fassent preuve de temps en temps de pédagogie, d'expliquer les choses, même si je sais que le temps médiatique est un peu court, contracté, qu'on ne prend pas tout le temps le temps d'expliquer la complexité des phénomènes sociétaux. Et donc effectivement, on ne peut pas traiter tout par la loi, à travers le Parlement. Je pense que ça passe également par l'école, par l'éducation, par la mobilisation des Français autour d'un projet commun. Il faut une utopie qui réconcilie tous les Français, quelle que soit leur philosophie ou leur conviction.
Et lorsque vous évoquez les tensions liées au discours politique, vous excluez la parole de l'exécutif aujourd'hui?
Il y a des paroles plus ou moins violentes, plus ou moins conscientes, et qui n'apaisent pas la société, le propre du politique, tout en étant lucide et de dire ce qu'il estime vrai, etc. Il faut qu'on ne perde pas vraiment l'objectif d'unir le peuple français, de dépasser les clôtures identitaires et politiques et religieuses. On a besoin de transcendance d'une certaine manière. Une politique réaliste, pragmatique, mais qui prend en considération la transcendance pour unir les Français autour d'un projet dans lequel le maximum possible de Français se reconnaissent.
Le président de la République a remercié ce mercredi les cultes pour leur mobilisation depuis le début de la crise sanitaire en France. Il les a remerciés notamment d'avoir proposé du lien dans les épreuves de deuil et d'isolement. Est-ce que vous pouvez nous faire part justement de votre regard sur la gestion de cette crise sur le point de vue cultuel?
Mais écoutez, le rôle d'une religion qui se respecte, c'est d'abord apaiser la conscience humaine devant les épreuves. C'est une catastrophe qui a frappé notre humanité, notre société française. Donc, il y a un discours religieux qui a contribué à l'apaisement, justement, des consciences. Il y a un accompagnement rituel, mais il y a également une action éthique de soulagement, d'accompagnement des gens en souffrance, en douleur, dans le deuil, etc. etc. Et donc, je pense que les religions ont un rôle important à jouer dans notre société postmoderne désormais, en apportant le sens de la vie, le sens du sacrifice, le sens de l'épreuve, l'altérité également, penser à l'autre également, parce que l'épidémie, penser à soi-même, c'est penser également à l'autre, par le vaccin, etc. Donc on essaie un petit peu de jouer ce rôle utile, spirituellement, éthiquement et politiquement, pourquoi pas, pour la prospérité de notre société, et afin de dépasser cette crise avec le moins de morts possible.
Avec cette crise qui se poursuit, voire qui s'accentue, seriez-vous favorable à la mise en place de jauges dans les mosquées? C'est notamment une demande du président du Conseil français du culte musulman adressée aux mosquées.
Écoutez, si l'État décide de cela, les mosquées vont s'y plier. Donc, les mosquées, c'est comme tous les espaces de la République. Et ils obéissent aux directives politiques et des lois de la République.
Mais en l'absence de directives, quels conseils vous donnez-vous?
Nous respectons les gestes barrières, tout simplement. Le port du masque, la distanciation, etc. Donc, effectivement, si on s'en tient à ça, c'est déjà pas mal.
Et vous l'avez déjà fait, hein, vous appelez l'ensemble des fidèles à se faire vacciner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait.
Mais oui, mais écoutez, l'islam fait la promotion du médicament et de la médecine. Moi, je pense qu'il ne faut pas sombrer dans l'irrationnel. Il y a un discours vraiment de superstitieux où on voit le mal partout. Je pense qu'on a la chance d'avoir une humanité aujourd'hui qui est capable de trouver un vaccin. On a un temps record. Et donc le médicament, le vaccin est une grande partie de la réponse à cette catastrophe sanitaire. Donc il ne faut pas s'en priver. Bien sûr, nous encourageons les fidèles à se vacciner, parce que rien dans la tradition musulmane n'interdit la prise de médicaments. Au contraire, nous devons combattre le mal par tous les moyens à notre disposition, par des comportements de prévention, mais également par des médicaments s'il le faut.
À l'approche de l'élection présidentielle en avril prochain, quels vœux formulez-vous sur les différents thèmes abordés durant cette campagne, Tarek Oubrou, grand imam de Bordeaux?
Écoutez, le vœu que je formule, c'est d'aller vers une réconciliation entre les composantes de notre société française. Être lucide devant les problématiques, apporter des réponses concrètes et s'éloigner des discours idéologiques qui stigmatisent, qui séparent les Français entre eux. Bien sûr, tout le monde combat le séparatisme, mais parfois il y a des projets et il y a des pensées, il y a des discours politiques qui ne vont pas dans le sens de la réconciliation, au contraire, qui vont dans le sens du clivage et du séparatisme.
Et vous entendez apporter votre contribution au cours de cette campagne présidentielle en tant que théologien notamment?
Écoutez, le théologien ne fait pas la politique, comme le politique ne fait pas de théologie. Donc, en tant que théologien, je dois garder une neutralité politique comme le politique doit garder une neutralité théologique. Mais en tant que citoyen, je peux bien sûr participer au débat, etc. En tant que citoyen, pas en tant que religieux, il ne faut pas faire embarquer la religion de toutes les problématiques politiques. Donc il faut faire preuve de discernement. Bien sûr, la religion doit être toujours, quelles que soient les circonstances, au service de l'humain, au service de la société, au service du croyant, au service du non-croyant. C'est comme cela que je comprends ma religion en tout cas.
Et vous avez le sentiment aujourd'hui que les sujets qui préoccupent la majorité des Français sont abordés au cours de cette campagne ?
Écoutez, il y a une inquiétude due à une certaine incertitude et qui parfois le peuple français lui-même n'arrive pas à l'exprimer de manière claire parce que il y a beaucoup de confusion, la question de l'immigration, la question de l'identité, la question de l'islam, la question de l'économie, la question de l'Europe. Parfois, il y a de la confusion dans le discours politique et qui ne permet pas aux citoyens lambda de faire un discernement. On simplifie trop les problèmes alors que les problèmes sont connexes, sont liés et qui supposent vraiment un projet plus global, pragmatique, efficace, mais qui n'est pas idéologique, qui vise à accéder au pouvoir en clivant les Français.
Quel est le principal vœu que vous formulez pour cette année qui vient de démarrer, Tarek Oubrou ?
Mon vœu, c'est la réconciliation, c'est la paix, c'est la prospérité, c'est la reconnaissance, que tout le monde reconnaît tout le monde. Et voilà, de sauver notre cher pays, la France, de tout risque de guerre civile, même froide. Moi je suis un épris de la paix et j'aime beaucoup la paix. La paix n'est pas l'absence de guerre, mais la paix c'est la sérénité, c'est la lucidité, mais c'est plus que l'absence de guerre. Et donc je veux la paix pour mon pays, la sérénité, la prospérité.
Ce risque de guerre civile froide, dites-vous, il existe aujourd'hui en France ?
Ben, il commence à germer au niveau mental. C'est comme ça que les drames surviennent, en commençant par les imaginer, les prophétiser, les annoncer. Et quand on annonce la guerre, généralement on finit par la provoquer. Donc il faut éviter les prophéties du malheur. Moi je suis plus pour un optimisme énergique, de voir l'avenir positif comme un dopant pour l'action. Donc je suis un acteur comme beaucoup d'autres. Je ne suis pas là pour commenter l'actualité, mais pour agir justement dans le sens que je viens de formuler.
Merci Tarek Oubrou, grand imam de Bordeaux. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cet entretien et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.